Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Céline Cheung, la cofondatrice de la Bao Family. Salut Céline.
Salut.
Bah, écoute, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, et je ne sais pas si je dois te présenter, tant le projet Bao, il fait parler de lui ces dernières années et semaines, notamment avec l'ouverture récente de la quatrième adresse à Paris, qui est nommée Bao Express. Mais puisqu'on ne va pas revenir sur l'intégralité de ton parcours et parce que tu as déjà raconté en détail ta vie d'avant et la genèse du projet Bao dans plusieurs podcasts, qui sont d'ailleurs super et que j'invite tout le monde à aller écouter, je vais tâcher de résumer quelques années de ton parcours en quelques phrases, afin qu'on puisse explorer des thèmes en particulier, qui sont la food, l'art et le voyage, et c'est parfait puisque c'est les thématiques du podcast, et c'est des thématiques qui résonnent pas mal en toi. Donc tu as suivi un parcours prépa HEC, puis une école de commerce, et tu es rentrée dans un cabinet de conseil dans lequel tu as bossé plusieurs années, avant de réaliser que tu souhaitais entreprendre, et pas dans n'importe quel milieu, puisque tu voulais entreprendre dans celui de la food. Comme tu adores manger à cette époque, mais que tu ne cuisines pas spécialement, et que tu n'as jamais bossé dans le secteur, tu intègres la marque PNY, donc c'est Paris-New York, c'est une chaîne de burgers délicieux à Paris. Pour apprendre tous les rouages d'un restaurant aux côtés de l'équipe fondatrice, puisque rapidement de serveuse, en fait, tu passes dans les équipes opérationnelles. Et en parallèle de cette activité, ton projet commence à se préciser. Tu as envie de montrer que la cuisine chinoise, que tu connais bien via tes origines, puisque tu es franco-chinoise, est très diversifiée et goûtue, et ainsi sortir de certains clichés. Une fois ton associé trouvé, Billy Pham, on en parlera aussi, tu lances en 2019 Petit Bao, qui est situé donc rue Saint-Denis à Paris. C'est le premier resto de la Bao Family. Suivi de Gros Bao en 2020, qui est situé sur le canal Saint-Martin. Puis Bleu Bao, début 2022, dans le 9e arrondissement. Et enfin, Bao Express, fin 2022. Et nous voici, début 2023, Céline. Et on va parler un peu de toute cette actualité et puis des thématiques que j'ai évoquées. Est-ce que ce résumé est fidèle? Est-ce que tu aurais des choses à ajouter?
Ce résumé est bien fidèle. Merci à toi pour ce travail.
Pas de coquille de parcours.
Non, c'est
bien
parfait.
Ton résumé.
Ouais, c'est bon.
Trop bien. Et ben alors, du coup, on peut plonger dans les thématiques. On va démarrer par la food, évidemment. Ça me paraît à peu près logique puisque ton business est là-dedans. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Bao, et on les invite toutes à venir goûter puisque c'est délicieux. Qu'est-ce qu'on mange dans les adresses Bao? Fais-nous saliver.
Chez Bao, on mange le Bao, qui est notre produit signature, qu'on fait sous deux formes. Le Xiaolong Bao, qui est une petite bouchée vapeur avec une pâte fine, une farce et un bouillon à l'intérieur. C'est extrêmement délicat, très difficile à faire, très complexe, mais ce mélange de texture en bouche est incroyable. Tu ressens vraiment une explosion, hyper surprenante avec ce bouillon, mais c'est aussi très doux. C'est vraiment hyper addictif et c'est mon produit préféré. C'est pour ça que c'est le produit vraiment signature de la maison. Et après, on mange également la brioche, le paozi. Donc c'est une brioche moelleuse qui est un petit peu plus ronde, plus dodue, comme un petit nuage, avec une farce à l'intérieur, des farces de porc ou de légumes.
Et donc ça, c'est des recettes qu'on va retrouver dans toutes les adresses Bao.
Ouais,
c'est
exactement.
Les adresses, je vais y arriver, les recettes signatures.
Yes, le Xiaolong Bao, les Baozi, enfin toute cette catégorie Bao, c'est vraiment ce que tu vas retrouver partout, en mode colonne vertébrale de nos adresses. On a aussi plein de plats qui sont classiques de la cuisine chinoise, type les nouilles sautées, les aubergines, hongshao, qui sont marinées dans deux sauces soja qu'on fait frire et qu'on fait cuire au wok ensuite, le poulet sweet and sour, des légumes sautés à l'ail. Tout ça, c'est des plats vraiment classiques qui accompagnent en fait le bao et qui en fait déterminent un peu la manière dont on mange en Chine, c'est-à-dire que c'est des tables à partager. C'est vraiment ce qu'on voulait faire découvrir à Paris, cette manière de consommer plusieurs plats sur la même table. Tout le monde picore en fait avec les baguettes et tu as un mélange de tout et c'est équilibré. Tu as de la viande, tu as des légumes, tu as des féculents, tu as des mélanges de textures, tu vois, tu as du croquant, du moelleux, du croustillant. C'est vraiment cette manière de manger, ça représente vraiment la cuisine chinoise et c'est pour ça qu'on a choisi, tu vois, de créer ces tables à partager et c'est ça que tu retrouves partout, mais bien sûr après avec des variantes d'identité très fort entre chaque adresse.
Oui, alors justement, c'était ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des spécialités dans chaque restaurant et si oui, quelles sont les spécificités? Ouais. Entre chaque adresse.
Alors du coup, nous, avec Bao, on a vraiment voulu créer des univers qui soient uniques et identifiables, avec une forte personnalité à chaque fois, une identité de carte, mais aussi d'architecture et de déco. Et du coup, le petit Bao, c'est vraiment genre le boui-boui, ce qu'on appelle le boui-boui style. C'est vraiment, tu vois, le restaurant inspiré des boui que tu peux retrouver dans les rues de Shanghai, avec vraiment le Bao en produit star. Donc là, on a une gamme de quatre chalons Bao, des paozi, et puis les plats classiques, mais en mode petit format, 60 couverts qui grouillent avec plein d'énergie midi et soir. Ensuite, on a créé Gros Bao. Là, on rêvait d'une cantine énorme comme en Chine. Et dans les cantines en Chine, en fait, tu sers des plats de différentes spécialités de toutes les régions de Chine. Et donc, c'est ce qu'on met à l'œuvre, en fait, à Gros Bao, avec le Mapo Tofu du Sichuan, le Chasu Bao qu'on a lancé à ce moment-là, qui vient plutôt de Canton, et le canard pékinois. Donc l'idée, c'est vraiment de faire découvrir des spécialités différentes avec un gros axe rôtisserie à Gros Bao. Donc c'est ce qui fait sa spécificité.
Donc comme ça, on ne le retrouvera pas chez Bleu Bao, Bao
Exactement.
Express.
Okay. Le canard pékinois, c'est que à Gros Bao. Et toute la partie rôtisserie, donc la viande de chassu ou le porc croustillant, c'est que à Gros Bao également.
Ok, ça y est, je salive déjà.
Et à Bleu Bao, on avait vraiment envie de créer un resto de casual fine dining. Donc... élever l'expérience avec une cuisine délicate, premium, dans un environnement qui soit plus poétique et enivrant. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire des dim sum, en fait, chez Bleu Bao, parce que c'est quelque chose qui est fait à la main, très raffiné, très délicat. Et donc, on a une sélection de dim sum à Bleu Bao, accompagnée de cocktails aussi raffinés, avec qu'on a créé en fait comme un voyage dans chacune des régions de Chine. Un cocktail est fait avec un ingrédient d'une région de Chine. Et ensuite, Bao Express, c'est vraiment le dîner chinois. Donc, quand on dit dîner, c'est vraiment une multitude en fait, de dim sum qu'on peut partager. Donc là, la carte de dim sum est beaucoup plus grosse qu'à Bleu Bao. On a 10 dim sum. Et donc, l'idée, c'est d'avoir toutes ces petites assiettes vapeur ou frites qu'on partage dans un univers de diner inspiré de Hong Kong.
Complètement. On en parlera après là, de l'univers qui est vraiment haut en couleur. Et dans chaque adresse Bao, c'est... c'est hyper marquant et du coup, ça, je pense que ça contribue à ce que les assiettes soient de plus en plus délicieuses aussi. Cet univers très coloré et très chouette. Et après, est-ce qu'il y a des spécificités aussi liées peut-être aux chefs, hommes et femmes, que tu peux avoir dans chaque adresse ou en tout cas, comment est-ce que la carte, elle est créée? Comment le menu, il est créé? Est-ce que c'est toi qui le co-construis avec les chefs que tu choisis? Comment ça se passe?
Alors oui, en fait, il faut comprendre que Bao, c'est vraiment une entreprise où... c'est un peu la créativité qui drive l'ensemble des projets. C'est-à-dire qu'on part d'un univers qu'on a envie de créer, un univers qui passe justement par l'expérience qu'on veut faire vivre au client. Et cette expérience-là, elle passe à la fois par le lieu, le décor, mais aussi l'assiette, le menu et l'offre food and beverage. Donc tout ça, en fait, c'est imaginé. Et ensuite, en fonction de l'univers qu'on veut créer, on va recruter les bonnes personnes. Donc du coup, le chef qu'on va recruter va correspondre finalement au type de carte en fait qu'on a envie de faire et en fait dans l'organisation Bao il y a vraiment un travail de co-création entre la cellule on va dire l'équipe R&D mm-hmm. donc R&D food et drinks qui vraiment va faire de la recherche en fait sur tous les plats et les head chefs de chacun des restos avec qui ils vont co-créer les recettes et les head chefs en fait nous aiguillent en fait sur la faisabilité opérationnelle de l'ensemble des plats. Du coup c'est vraiment une discussion entre la partie créative R&D et les head chefs qui gèrent à la fois les équipes et l'opérationnel.
Oui, c'est hyper intéressant de se dire que c'est aussi une équipe au siège comme on pourrait dire, enfin, en tout cas une équipe en interne qui imagine les recettes.
Oui, alors c'est vraiment une... En fait, c'est vraiment la direction artistique, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, je pense que comme dans toutes les boîtes créatives, nous, en fait, la cellule, le Creative Studio, en fait, de Bao, donc on a vraiment créé une entité en interne qui s'appelle le Bao Creative Studio okay. et qui gère toute la DA du groupe, donc sur toutes les verticales food, expérience client, graphique, design... et toute l'offre food, drinks, images, contenu, c'est vraiment une entité à part entière qui en fait va donner des directions artistique sur l'ensemble de nos des produits, des restos. Et avec cette direction-là qu'on imagine, on en discute en fait avec les chefs qui viennent nourrir en fait cette réflexion-là. Et du coup, on se co-nourrit. Et c'est après ensemble de nos sessions de brainstorm et de création qu'on va imaginer ensemble après les concepts. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une équipe quand même qui est dédiée à cette effervescence créative.
Oui, et puis qu'il y a une unité justement entre chaque resto, puisque tu pourrais avoir un chef différent de chaque resto qui a sa patte. Mmh. Là, il y a quand même aussi une sorte de ligne directrice qui est maintenue par ton équipe en interne.
Exactement.
Et est-ce que après les menus de chaque adresse Bao sont amenés à évoluer, à changer en fonction de l'actualité ou des saisons ou après peut-être de vos envies ?
Ouais, complètement. Alors nous, on change les menus pour les saisons printemps-été et ensuite automne-hiver dans chacun des restaurants. Hyper important d'avoir des produits de saison et donc ça nous permet de réimaginer, vraiment des plats qui nous font plaisir. Après, c'est aussi important pour nous de garder une constance dans les produits qu'on propose parce que les gens reviennent pour nos produits signature et donc c'est important de maintenir aussi ces produits signature parce qu'on sait que ça fait plaisir et ça nous viendrait pas à l'esprit d'enlever les aubergines Hongshao par exemple.
Délicieuses. Goûter les aubergines.
Exactement. Et après, ensuite, on a bien sûr des opérations, très ponctuelles qu'on va faire tout au long de l'année, que ce soit dans le passé, on a fait pas mal de collaborations avec d'autres restaurateurs. On a fait pas mal de bao sucrés spécialement pour Noël, pour Halloween, pour Pâques, pour la fête des mères. Enfin, dès que pour le Nouvel An chinois, on a aussi toujours un menu spécial. Pour la fête de la Lune, on a aussi un menu spécial. Donc en fait, tout au long de l'année, on va animer ces cartes de saison par des événements spéciaux où on a envie d'amener des nouvelles créations. Et donc en fait, nous, notre processus créatif, il est tout au long de l'année parce qu'on... L'année dernière, on a créé, je ne compte même plus, on a créé, je pense, 70 recettes.
D'accord.
L'année dernière, c'était énorme. Donc, nous, c'est des cartes qu'on fait vivre à chaque fois, c'est des lieux qu'on veut faire vivre à chaque fois. Et pour nous, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on arrive aussi à ce que les clients aient envie de revenir. Ils se disent, bien sûr, je peux trouver ce que j'aime, mais en plus, si j'ai envie de goûter les nouveautés, tant mieux, il y en a une. Et c'est ça qu'on aime créer.
Et toi, est-ce que tu contribues justement à ces créations de recettes ou est-ce que pour le coup, c'est vraiment déjà les head chefs et l'équipe en interne, ils sont déjà bien, bien fournis en réflexion. Est-ce que toi, tu viens quand même aussi donner un peu tes axes de réflexion ou tes axes d'envie ?
Oui, alors je t'avoue que là, on vient de recruter une lead du Creative Studio. Elle est arrivée en février, elle s'appelle Alice. Et donc, avant qu'Alice arrive, en effet, c'était moi qui étais en charge de toute la direction artistique.
D'accord.
Donc, c'est vrai que j'ai eu depuis 4 ans un rôle très, 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 très fort dans la direction artistique de tous les restos et de toutes les cartes. Donc, vraiment, toutes les idées venaient de moi. Okay. Enfin, vraiment. Et que je travaillais, bien sûr, en parallèle avec toutes mes équipes. Mais toutes les impulsions, les créations, ça venait beaucoup, beaucoup de moi. Et là, aujourd'hui, j'ai envie d'empower toutes mes équipes dans cette partie-là. Moi, j'ai beaucoup plus un rôle, de visionnaire, maintenant. Mais moi, j'adore créer. Et j'ai des idées tous les jours. Donc là, maintenant, c'est comment est-ce que ces idées-là, prennent forme, ont du sens, quelles histoires on raconte autour de ça et qu'est-ce qu'on construit à partir de ça.
Oui, complètement. Toi, tu as plein d'idées en tête et puis après, tu peux les souffler à tes équipes qui, du coup, j'imagine, sont hyper talentueuses pour les mettre en lumière et mettre en forme. Okay.
Exactement.
Et là, maintenant, du coup, vous êtes combien dans la Bao Family ? Parce que ça a bien grandi depuis que tu as lancé la boîte.
Yes, aujourd'hui, on est 200.
Ok.
Ouais, donc c'est... c'est ouais, c'est
avec les quatre adresses chiffre. Et puis les équipes plus opérationnelles, plus
transverses. Au siège, exactement. C'est ça. Ouais, okay. Donc on est 200. On est passé vraiment de 9 salariés en janvier 2019 à 200 en janvier 2023.
Trop bien. Et alors du coup, là, si on revient un peu sur les débuts de Bao et les premières recettes que tu as imaginées, est-ce que tu te rappelles quand tu as réfléchi au projet de lancer un projet de restaurant de cuisine chinoise ? Quelles premières recettes sont venues en tête ? Peut-être, j'imagine, des recettes aussi que tu avais déjà goûtées par tes voyages ou via ta famille. Qu'est-ce qui était phare et qui devait être dans ta carte ?
Alors, moi, c'est vrai que, comme tu l'as dit en intro, je suis plutôt quelqu'un qui aime manger. Donc, j'ai toujours aimé être cliente d'un restaurant ou être assise à table et on m'amenait les repas. Et moi, j'adore ces moments-là, qui, je trouve, c'est des moments de vie... qui me font énormément plaisir et c'est des moments je trouve qui sont très forts dans la vie des gens Et j'avais été moins, tu vois, de l'autre côté, côté cuisine. Et du coup, pour commencer le projet, j'avais vraiment besoin de mettre les mains dans la cuisine. Et du coup, je suis allée prendre des cours de cuisine à Shanghai. Donc, quand j'ai rencontré mon associé Billy, on est partis ensuite tous les deux à Shanghai pour prendre des cours auprès d'experts, tu vois, experts bao, experts wok, experts nouilles. Donc, on a vraiment fait des cours avec des chefs shanghaïens.
Que tu sentais que c'était important que tu saches cuisiner si tu voulais lancer un resto, que tu aies quand même cette expertise, même enfin, si ça n'allait pas, c'est pas toi qui allais derrière les fourneaux, mais.
Après, moi, c'est plus que c'est je pense que dans mon processus créatif, moi, j'ai besoin de comprendre en profondeur les choses. Et moi, pour comprendre, j'ai besoin de faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis allée bosser chez PNY avant. Je crois que j'avais besoin de comprendre comment on gérait des restaurants. Et donc, j'ai mis les mains dans le cambouis. Et voilà, la cuisine, c'était pareil. Tu vois, j'avais besoin de comprendre et j'avais besoin de tester. J'ai besoin de faire moi. Ça me permet vraiment de comprendre toutes les problématiques, de m'en imprégner et ensuite de le transformer en quelque chose qui me parle. Et du coup, quand j'étais à Shanghai, j'étais allée voir les profs avec déjà une première idée de menu. Et donc du coup, de Paris, tu vois, j'avais commencé à réfléchir à la structure de menu dont je rêvais pour Petit Bao. Et j'avais déjà commencé à identifier justement le Xiaolong Bao, les Bao et les plats qui sont aujourd'hui les plats signatures de Bao Family. J'avais déjà mis, tu vois, les aubergines Hong Shao et
D'accord.
le poulet Sweet and Sour.
Parce que c'était des recettes que tu mangeais déjà dans ton quotidien?
Ouais, c'est des recettes que j'adore dans le quotidien. C'est des recettes que moi, je prenais tout le temps dans les restaurants chinois. Tu vois, quand je voyageais en Chine, moi, c'est mes plats préférés dans les restaurants chinois.
Ok.
Je trouve que c'est des plats qui sont hyper addictifs, trop bons. Tu vois, il y a un légume, une viande. Les deux sont sucrés, salés, mélange de croustillant et de moelleux. Enfin, je trouvais que en termes de texture et de complexité, l'équilibre était parfait. Et voilà, ça, c'était mes plats préférés. Et donc, moi, j'ai voulu les interpréter à la sauce Bao Family. Et donc, je les ai appris avec eux. Donc, je les ai appris à Shanghai et ensuite, tu vois, j'ai quand même fait de la R&D de mon côté pour peaufiner les recettes que j'avais apprises à Shanghai, pour apporter notre touche. Et voilà, notre touche, c'est un peu savoir des marqueurs de goût dont tu te rappelles.
Ouais, c'est pas. Est-ce que du coup, ces recettes-là, avant que Bao existe, c'est des. Désolée, je vais pas citer les noms à chaque fois des plats parce que je pense que j'écorcherais, je serais incapable. Mais donc, du coup, les aubergines et les Bao dont tu parlais, est-ce qu'avant que Bao existe, tu trouvais déjà à Paris des bonnes adresses pour manger ce genre de recettes ou il a fallu qu'on attende que tu existes pour découvrir
Alors,
ces délicieux mets?
de la manière, le Xiaolong Bao, c'est très très dur à faire. Hein. Clairement, c'est avoir une pâte aussi fine, c'est vraiment très difficile. Il faut vraiment une expertise de dingue. Et donc à Paris, malheureusement, je n'arrivais pas à trouver ce niveau-là, en
Ouais,
tout cas
c'est
de
quelque chose que
Xiaolong
tu
Bao.
voyais à Shanghai, mais.
Par contre, c'est des choses que je voyais à Shanghai, en Asie, voilà, dans des restaurants qui s'appellent Din Tai Fung, ils sont très très forts pour faire ça. Donc clairement, voilà, à Paris, je ne le voyais pas encore. Et après, sur tous les plats que nous, on a faits, je le voyais à Paris, mais pas avec le goût Bao familier. Donc ils le faisaient à leur manière. Et voilà, nous, on l'a juste réinterprété. C'était aussi important d'avoir des produits, tu vois, des produits bien sourcés, des sauces qui soient faites maison, qu'on fait nous-mêmes, avec voilà, un marqueur de goût qui soit aussi un peu différent. Donc en fait, ça existait, mais juste pas à notre
Pas à
manière.
votre manière.
Exactement.
Trop bien. Et alors, pour conclure cette partie sur la food, avant qu'on jump dans le voyage, même si tu as commencé à parler de Shanghai, est-ce que tu aurais des bonnes adresses food à nous partager? Où est-ce qu'on peut te trouver assise à un restaurant quand tu n'es pas dans ton propre restaurant? Interdit de citer des adresses Bao,
Oui,
évidemment.
bien sûr. Alors, moi, j'adore les restaurants japonais Sanokia. Ils font des super bonnes udon. Trop, trop bon. J'adore. Voilà, il y a pas mal la queue. Donc, il faut y aller tôt. Ça, c'est le. Mais ça vaut le coup. C'est hyper réconfortant. C'est rapide. Très bon. J'adore.
Bien.
Et après, Abri Soba, un autre restaurant japonais que j'adore. Moi, j'avoue, je mange japonais quand je mange pas chinois.
C'est vrai.
Ouais.
Pas d'italien, pas de
Ah si,
français.
j'adore l'italien aussi.
Ok.
Ouais, Racine, j'aime beaucoup.
Racine, ouais,
Ouais.
ok. Maintenant, on va parler un peu de voyage, on va revenir un peu en arrière et essayer de parler un peu de ces voyages-là de manière chronologique pour aussi reconstruire ton parcours que j'ai commencé à mentionner en début d'interview. Si mes calculs sont exacts, je pense qu'on est autour de 2016 et tu pars voyager en Iran.
Ouais.
Et il me semble que c'est un voyage qui a été un gros déclic pour toi. À l'époque, tu étais encore en conseil. Et c'est à l'issue de ce voyage que tu t'es posé pas mal de questions sur la suite de l'aventure.
Ouais.
Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer avec qui tu étais en Iran, qu'est-ce que tu as fait là-bas et voilà, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qui a fait qu'à ton retour, bam, on switch.
Alors, on était, c'était ma troisième année de conseil, du coup. Et ça faisait déjà, au bout de 2 ans de conseil, en fait, j'avais compris que le conseil, c'était pas fait pour moi. Et j'avais compris que voilà, je rêvais d'entreprendre depuis toujours. Déjà en école, je savais que j'allais monter un projet un jour. Il me fallait juste un peu de courage et de temps, je pense, pour me faire à l'idée que j'allais entreprendre. Et en fait, au bout de 2 ans, je commençais à écrire toutes mes idées dans un carnet. Et chaque idée, je la poussais en mode business plan, quoi, pour voir en fait si c'était viable et voir si ça me parlait, si je me projetais dans ce type de projet-là. Il se trouve que 6 projets sur 10 étaient autour de la food. Et voilà, en fait, pendant cette troisième année de conseil, voilà, j'écrivais plein de choses. Ensuite, je suis allée en Iran pendant 3 semaines avec mon ex de l'époque. Et voyage incroyable, rien n'était planifié. Ça me fait énormément de bien.
Ok, juste un billet d'avion.
Juste un billet d'avion, notre premier hôtel à Téhéran, et c'est tout. Et ensuite, on savait qu'on allait voyager partout en Iran, mais on savait pas les logements, on savait qu'on allait se déplacer en bus, mais tu vois, tout était au jour le jour.
D'accord.
Ça, je pense que ça m'a fait un bien fou de me laisser complètement porter. En plus, dans un pays où tout est écrit en farsi, on comprenait rien. Mais les Irans sont incroyables, c'est vraiment un peuple, une culture incroyable, et j'invite tout le monde à y aller, c'est magnifique. Et les gens sont d'une bienveillance, d'une gentillesse et d'une culture voilà, exceptionnelle. Et du coup, lors de ce voyage-là, où j'ai fait des rencontres exceptionnelles, à un moment, je crois que c'était au bout de 2 semaines, on se posait, j'étais posée en fait dans un salon de thé, assise sur un tapis persan, en plein milieu de l'après-midi, et donc je parlais forcément de mon futur. En mode discussion ouverte, je savais que je voulais monter une boîte, donc je parlais de... À un moment, je commence en fait à parler de ce projet de restaurant-là, et j'ai une vision pendant cet après-midi-là, et donc je commence à raconter à haute voix cette vision, et donc je dis, je me vois trop dans un restaurant qui sert des bao, un mélange entre Paris et Shanghai, bao en produit star, mais je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres plats à côté, je pense qu'il faudrait qu'il y ait ça au mur, je vois un truc un peu brut, mais il faut qu'on reconnaisse l'atmosphère de la Chine, enfin, je commence à raconter le truc. Et en fait, pendant que je raconte cette histoire, en fait, moi, je me suis complètement vue dans ce restaurant-là. C'est-à-dire que je me suis projetée dans ce resto. Et en fait, à l'intérieur de mon corps, bah, il s'est passé un truc. J'ai senti un espèce d'alignement, tu vois, une espèce de sérénité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Enfin, quand je racontais cette histoire, j'ai compris en fait que c'était ça, le projet. C'est-à-dire que j'avais écrit 10 projets sur mon carnet, mais jamais j'avais ressenti dans mon corps, tu vois, cette espèce de sérénité à l'idée, en fait, de me projeter dans un restaurant. Et du coup, quand j'ai compris ça, tu vois, c'était une fulgurance. Ouais. Et après, je me suis dit, ok, en fait, je crois que c'est vraiment ça. En fait, je crois que mon projet, en fait, c'est d'ouvrir un restaurant.
Parce que les autres projets que tu avais un peu dessinés sur ton carnet, c'était pas forcément du restaurant. C'était peut-être dans la food, mais...
C'était dans la food, mais pas forcément le resto. C'était, j'avais une idée de traiteur, j'avais une idée de faire un truc genre Kitok. Enfin...
D'accord.
Voilà, donc plutôt en traiteur d'ailleurs, et sur des trucs assez digitaux. Et en fait, j'ai compris que c'était un lieu physique. Tu vois, dans ma visualisation, je me suis vue dans un restaurant, en train de être dans un lieu. Et en fait, j'ai compris que c'était ça. Et du coup, c'est après ce voyage en Iran, quand j'ai compris que c'était ça, que j'ai décidé de démissionner. En fait, je suis rentrée d'Iran, j'ai posé ma démission.
Direct.
Ouais, direct.
Là, tu t'y voyais tellement que t'avais plus ta place dans le cabinet de conseil.
Ah ouais, mais plus du tout. Et une fois que, tu vois, c'était clair, en fait. J'ai une espèce de clairvoyance. Comme c'était clair, genre, je me posais plus de questions. Alors qu'avant, je me posais mes 15 000 questions. Tu mesurais les pour, les contre, tu tordais les sujets dans tous les sens. Et en fait, une fois que j'avais eu ça, c'était une évidence. Et en fait, comme c'était évident, bah, du coup, tu vois, je suis passée à l'action. J'ai posé ma démission, sans chômage, sans rien. J'avais pas de rupture conventionnelle, rien du tout.
T'étais hyper sereine sur le projet, j'ai l'impression. Justement, le fait d'avoir eu une vision où tu te sentais hyper à ta place, ouais. Tu t'es dit, en fait, c'est bon, c'est parti.
En fait, c'est ça.
T'étais pas du tout stressée de savoir si tu prenais la bonne décision ou pas. Quoi.
Ouais,
c'était vraiment évident pour toi. Quoi.
C'était évident. Par contre, il y avait bien sûr un mélange de... Il y avait énormément de peur. En gros, tu navigues entre l'excitation très grande et la peur. La peur, c'est qu'en fait, moi, à cette époque-là, je ne connaissais rien du tout de la restauration. Ouais. Tu pars d'une vision dans ta tête. J'avais jamais bossé dans un restaurant de ma vie. Je ne savais absolument pas ce que c'était que le milieu de la restauration.
Tes clients dans le conseil, c'était pas du tout dans ce milieu-là.
Ah non, 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 pas du tout. Et moi, avant, j'avais bossé plutôt dans le luxe, ensuite dans des grands groupes type... Enfin, Carrefour, Total, oui. Crédit Agricole, SNCF.
Très loin, là-bas aux familles.
Très, très loin du milieu de la food, ouais.
Ok. Et donc, du coup, alors là, on va faire un petit saut dans le temps, puisque après ça, donc, tu démissionnes, tu rejoins Paris-New York pendant un peu plus d'un an. Là, tu apprends tous les rouages du métier auprès de l'équipe fondatrice. Et puis ensuite, on va, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on arrive à Shanghai, justement, dont tu nous parlais, à la fois pour apprendre à cuisiner et aussi découvrir ton associé Billy. Mm. Peut-être tu peux faire une petite parenthèse sur Billy, comment tu l'as trouvé, parce que c'est un moment un peu charnière, je pense, d'un projet entrepreneurial, c'est de s'associer avec la bonne personne.
Ouais, carrément.
Qui est Billy? D'où vient-il? Que fait-il? Comment tu le connais?
Alors, bah, Billy, je ne le connaissais pas avant Bao, donc c'est assez fou. En fait, ce que j'ai appris aussi dans le chemin entrepreneurial, c'est que tout tombe à pic. Genre, il y a des belles rencontres qui se font sur le chemin et elles viennent au bon moment. Pour PNY, c'était ça. Et en fait, c'est les associés de PNY qui m'ont fait rencontrer Billy. Okay. Donc, je partais de PNY, c'était un mois avant mon départ. Billy était allé les voir parce que lui, il venait du milieu de la franchise et il avait envie de monter son concept de restaurant asiatique. Et donc, il est allé voir Rudy Graffi de PNY parce qu'il voulait des conseils pour monter ce resto asiatique. Et là, les fondateurs de PNY lui disent « Mais il faut absolument que tu rencontres Céline. Elle part de chez nous. Elle veut monter des restos asiatiques. »
Incroyable.
Donc, incroyable.
Les planètes alignées.
Et donc là, on se rencontre avec Billy. Donc, on prend un premier café. Ensuite, on prend un deuxième café. On prend un troisième café. Et là, on se rend compte, en fait, qu'on a la même vision. C'est-à-dire qu'on veut tous les deux redorer l'image de la cuisine asiatique. Lui, il est vietnamien d'origine. Moi, chinoise, il connaissait moins la cuisine chinoise. Par contre, il croyait très, très fort en notre projet. Enfin, en mon projet à l'époque, parce que moi, c'est vrai que j'avais eu le temps de bien dessiner les contours de Petit Bao à l'époque. Enfin,
Là, tu lui as redonné ta vision que tu avais eue en Iran, quoi.
Ouais, exactement. Et une vision que j'avais eue en Iran, plus qui avait été retravaillée et peaufinée grâce à mon année chez PNY. Donc, ouais. Le projet aussi avait pris forme. Donc là, je lui avais vraiment fait part du projet comme j'imaginais, et lui il a adhéré tout de suite, vraiment il a adhéré à 100% au projet. Et donc pour moi c'était hyper important qu'il se nourrisse aussi de la cuisine chinoise, qu'il comprenne, et je voulais être sûre en fait que ça lui plaise.
Oui, parce que ne s'est jamais posé la question à un moment du coup peut-être de faire un resto
mix
hybride chinois-vietnamien?
Non, bah pas du tout, parce que après moi, pour moi, c'était hyper important, justement, dans l'idée de redorer la cuisine chinoise, de rester très authentique à la cuisine chinoise. Et justement, de ne pas mélanger les cuisines pour ne pas porter, en fait, à confusion. Et c'est ce qui se fait souvent aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de restaurants asiatiques qui, en fait...
S'inspirent de plein de pays.
Ouais, de plein de pays. Et du coup, en fait, on s'y perd. Pour les gens qui ne sont jamais en Asie, on a du mal à trouver ses repères. Et du coup, pour moi, c'était important de vraiment rester précis sur un type de cuisine et de le faire très bien. Et on aurait pu choisir vietnamien ou chinois, mais c'est vrai que moi, dans l'idée du concept, c'était déjà très avancé, déjà abouti, et lui, il a adhéré tout de suite. Okay. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu l'emmener à Shanghai avec moi, pour qu'il puisse découvrir, qu'il goûte la cuisine chinoise, comme je le voyais. Et en fait, c'est ce voyage à Shanghai qui a confirmé aussi, lui, son désir, en fait, de prendre part à 100% au projet. Ouais. Donc, cette étape-là de notre rencontre était hyper, hyper importante. Ça a permis à la fois de valider son envie de faire part à une aventure entrepreneuriale food chinoise, et aussi de vérifier notre association. Parce qu'en effet,
c'est
le voyage, c'est un super test pour les couples, pour les associations. c'est le meilleur test, le voyage. Tu vis tous les jours avec lui, tu le vois dans toutes les situations. En plus, en voyage, on vit tout le temps des situations cocasses. Du coup, on voit comment l'autre réagit face à des situations cocasses.
Tu vois, vous êtes resté pendant un mois à Shanghai, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Et on a tout vécu, tu vois. C'était en plein hiver. On avait loué un scooter ensemble. Donc moi, j'étais derrière son scooter, on se connaissait à peine. À un moment, tu es neigé. C'était un scooter électrique. C'était trop marrant. On est tombé en panne en plein milieu genre de la route en Chine avec un scooter électrique. On savait pas comment comment recharger ce truc. Tu vis des situations vraiment qui sont très marrantes et qui en fait te permettent de voir si on arrive à résoudre des problèmes ensemble.
Ouais. Si vous avez la même logique, vous êtes complémentaires, ouais. Okay.
Donc en fait, ce voyage était exceptionnel. Ça nous a permis de valider qu'on avait la même vision, qu'on était capable de gérer des situations ensemble, qu'on voulait créer les mêmes choses.
Vous l'étiez dit avant de partir, genre voilà, on part un mois ensemble, évidemment pour te faire découvrir la cuisine chinoise à toi, Billy, mais aussi on va tester qu'on est compatible.
Ouais, complètement.
Vous étiez OK avec le fait de me dire peut-être que si on revient à Paris, ça n'a pas marché, bah c'est pas grave,
complètement.
On fera nos routes.
Ouais, exactement, parce qu'on n'avait rien signé avant, tu vois.
D'accord.
L'idée c'était vraiment qu'on fasse le voyage et qu'on décide après.
Okay.
Donc non, tout est hyper clair. Je pense que c'est hyper important d'être très transparent dès le départ, comme ça en fait on sait où on va. Et en fait il faut aussi se dire clairement les choses, donc c'est ce qui a été fait, et nous, très bonne surprise, tu vois, ça s'est très bien passé, et moi, en vrai, j'étais prête, tu vois, moi, j'étais prête à ouvrir un resto seul au début, okay. Pour moi, Billy, c'était un plus dans mon aventure, c'était pas un must-have, exactement, enfin, parce que j'étais tellement déterminée, tu vois, que j'étais prête à y aller seule, pour moi, enfin, c'est tant mieux, en fait, si ça marche bien, sinon, ça n'allait pas m'empêcher, en fait, de créer le projet.
Et maintenant, avec le recul, là, tu penses toujours ça ? Est-ce que tu te dis que tu aurais pu faire ça toute seule, tout ce que tu as créé avec Billy ?
Après, toute seule, je pense que clairement, je l'aurais fait différemment. Mm-hmm. L'histoire n'aurait pas été la même. À deux. De toute façon, quand on construit quelque chose à deux, il y a toujours des choses qui se forment à deux, mm-hmm. Qui sont différentes que quand c'est seul. Moi, je suis hyper contente de la manière dont. Enfin, moi, je suis trop contente de notre histoire et tu vois, j'aurais pas changé quelque chose. Que toute seule, ça aurait été différent. Je sais pas comment ça aurait été, mais clairement, ça aurait été différent. Après, moi, je suis très, très contente d'être à deux. Je pense que, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est quand même une aventure qui demande énormément de courage, de patience, de résilience. Voilà, c'est une épreuve physique et psychologique. Je trouve qu'à plusieurs, c'est toujours... ça aide, en fait.
Oui.
Tout seul, sinon il faut avoir vraiment les bons soutiens et appuis dans son entourage. Ouais. Ça se fait aussi, mais voilà, il faut juste réussir à être bien entouré. Du coup, moi, je suis hyper heureuse d'avoir fait cette aventure à deux. Et voilà.
Et donc, du coup, là, à Shanghai, l'idée, c'était de cuisiner tous les jours avec donc, les chefs que vous aviez sélectionnés. Et puis ensuite, j'imagine, de parcourir un peu la ville et de s'inspirer des lieux... des cuisines, de ce que vous mangez, pour ensuite revenir à Paris avec un concept qui allait se lancer.
Exactement. Exactement. Moi, ce que j'avais envie aussi, c'était de montrer à Billy tous les types en fait, de cuisine que tu as en Chine. T'as vraiment, tu as la cantine de rue, beaucoup de choses se fait dans la rue. T'as ces restaurants qui sont gastronomiques, traditionnels. T'as la cuisine familiale. Je voulais vraiment qu'il voit aussi l'étendue en fait, des cuisines chinoises pour qu'ils comprennent. Et du coup, on a exploré tout ça.
D'accord.
Et ensuite de tout ça, tu vois, on a créé notre propre univers.
Petit Bao, ouais. Ok. Et est-ce que vous aviez déjà à l'époque, en tout cas pendant ce voyage à Shanghai, l'idée d'une tripotée de resto Bao, tu vois, en se disant bah Petit Bao, ce sera le premier, mais on a déjà vocation à en faire plusieurs et du coup on s'inspire déjà de toute cette typologie de restaurants que tu peux retrouver en Chine.
Alors. Je pense que...
Toi, dans la vision.
Ouais, non, je pense que j'ai toujours voulu avoir... je me suis jamais vue simplement dans un restaurant, ça.
D'accord.
C'est sûr. Donc je savais qu'il allait avoir plusieurs restaurants. Par contre, la forme des restaurants, quand j'ai monté Petit Bao, en tout cas, c'était pas, je ne m'étais pas tout de suite dit « Ok, après Petit Bao, il y aura un gros Bao,
oui,
ensuite
oui.
Il y aura un bleu Bao ». Enfin, ça, clairement, tu vois, en 2018, je n'avais pas du tout ça en tête. Par contre, je savais qu'il allait en avoir plusieurs. Et après, une fois quand on a monté Petit Bao, c'est clair que je savais que ce format petit, à un moment, j'allais viser plus grand. Je le savais. Et donc, j'ai toujours rêvé de monter une grande cantine chinoise. Et tu vois, Gros Bao est venu à ce moment-là. Okay. Ensuite, je rêvais de monter un restaurant plus qui ajoute le fine dining. Bleu Bao arrivait là. Ensuite, j'ai rêvé d'un lieu hybride du matin au soir. Bao Express est arrivé. En fait, c'est plutôt mes envies de lieu de vie, tu vois, qui viennent. Ensuite, on crée un lieu.
Après, je pense que c'est quand même bien de que tu t'es dit déjà à l'époque, même si tu n'avais pas encore lancé Petit Bao, que tu voulais une multitude de restaurants, ouais. Puisque comme ça, je pense que tu te frustres pas avec ton projet en disant « Ah, j'ai envie de faire ça et ça et ça », mais tu dis « Ok, bah, ce premier projet il va répondre à cette envie-là, et puis je sais que plus tard, quand on se sera développé, qu'on aura les sous, on fera aussi ce deuxième projet de cantine, ce troisième projet de resto plus dining chaleureux. » Voilà.
Exactement.
Ça permet déjà de te projeter...
Exactement. Et moi, le sujet qui me passionne, c'est comment tu crées un groupe de restaurants et en étant toujours dans l'air du temps. Tu vois, moi, j'ai une vraie question sur la temporalité, parce que c'est vrai que c'est assez connu que la durée de vie d'un restaurant est de 3 ans. Okay. Parce qu'en effet, il se passe tellement de choses dans les grandes capitales. T'as des restaurants qui ouvrent tous les jours, ça pop-up de partout.
C'est l'effet de mode et ensuite...
Ouais. Et du coup, moi, j'ai pas du tout envie d'être un effet de mode. Moi, j'ai vraiment envie de m'inscrire dans le temps. Mmh. Et du coup, c'est le sujet que, tu vois, que je triture et que je travaille, c'est comment tu deviens une institution dans le temps et comment tu crées une marque autour de restaurants. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, tu vois, d'avoir des univers qui soient différents, mais avec une colonne vertébrale commune et une marque commune qui est Bao. Et c'est comme ça, tu vois, que le projet s'est créé.
D'accord. Et là, tu sens que justement, le fait d'avoir des projets très singuliers, mais avec une colonne vertébrale commune, c'est des éléments de réponse assez forts à cette problématique de s'inscrire dans le temps, justement, et de ne pas être un effet de mode. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pour vous aujourd'hui.
Nous, aujourd'hui, ça fonctionne très bien.
Okay.
Comme ça. Après, je ne sais pas si c'est...
Est-ce que tu vois d'autres éléments de réponse justement à cette problématique qui apparemment est quand même centrale dans ta vision ?
Alors, je pense que ce qui est hyper important, c'est voilà, d'avoir des marqueurs forts en fait de ta marque, une personnalité qui est forte et identique partout, parce que en fait tu confortes aussi les gens en étant toujours toi-même partout où tu vas, et sans dénaturer vraiment l'ADN. De qui tu es. Donc ça, c'est hyper important d'avoir cet ADN qui est fort et qui soit présent partout. Après, moi, je trouve que aujourd'hui, on a envie de vivre en fait des lieux qui soient dans des. Enfin, on a envie de vivre des expériences à chaque fois. Et je pense que le concept de la chaîne est complètement désuet. Donc, on n'a pas du tout envie d'être dans des univers qui soient froids, dénués d'âme. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que dans chacun des lieux, on arrive à mettre de l'âme, et comment est-ce que chaque lieu s'intègre hyper bien dans le quartier dans lequel tu es. Et donc, le travail qu'on fait, nous, c'est voilà, un travail de garder notre ADN et s'inscrire vraiment pleinement dans le lieu, dans le quartier, et en créer du coup un lieu unique qui vit en fait dans son quartier et qui du coup va vivre avec le temps. Donc c'est vraiment la démarche dans laquelle on est et à laquelle on croit très très fort.
Très bien, c'était un bon teasing pour la troisième partie sur l'art, faire vivre un lieu, on en parle juste après. Et avant ça, quand on s'est rencontrés la première fois, tu me disais que tu avais... pour chaque restaurant Bao que tu as créé, tu avais eu un peu l'idée, l'inspiration dans des voyages. On a parlé avec l'Iran et Shanghai. Pour la suite, du coup, Gros Bao, Bleu Bao et Bao Express, où est-ce que tu es parti? Qu'est-ce qui a inspiré ces nouveaux lieux?
Alors, Gros Bao a été énormément inspiré des grandes villes de Chine et de Hong Kong. Alors, Hong Kong, parce que en fait, c'est plutôt ce qui m'a inspiré dans Gros Bao, c'est les cantines chinoises qu'on retrouve à Hong Kong.
Okay.
Et du coup, on est parti avec nos architectes de l'époque à Hong Kong pour designer le lieu. Donc, on avait une première esquisse de plan à Paris. Ensuite, moi, j'ai voulu qu'il s'imprègne en fait de la ville de Hong Kong pour qu'on puisse vraiment refléter l'énergie qu'il y a à Hong Kong. Et je voulais qu'ils le voient, eux, qu'ils le vivent.
C'est ton côté jusqu'au boutiste
de faire
pour ensuite.
Exactement. Et donc, j'embarque tout le monde avec moi. Voilà. Tu vois, j'embarque tout le monde avec moi à Shanghai, à Hong Kong, pour que les gens vivent l'expérience et ensuite puissent bien le retranscrire en fait.
Que ce soit vraiment authentique et que ce soit pas du cliché.
Ouais, exactement. Et du coup, tu vois, on a acheté les lampes, les 200 lampes qu'il y a au plafond de Hong Kong.
Des super belles lampes rouges plafonnées.
Exactement. Ouais. C'est les lampes qu'on retrouve dans les marchés hongkongais. On a décidé à ce moment-là, lors de ce voyage à Hong Kong, qu'on allait faire ce plafond de lampes. Parce qu'on les a vues là-bas. On a passé notre temps à les négocier avec des petits marchands à Hong Kong. C'était trop marrant.
Ah, vous les avez ramenés à ce moment de ce voyage, okay, dans vos valises.
Exactement. Alors non, heureusement, on avait un fournisseur de bière là-bas qui nous a emmené toute la déco. Mais oui, on les a achetés. Véritable lampe de Hong Kong qu'on allait chercher limite 20 par 20 dans plusieurs boutiques.
Ah ouais.
Parce qu'en effet, personne n'en avait 200 d'un coup.
On se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire 200 lampes.
Exactement. C'était très très drôle. Et pareil pour les tables. Il y a des tables en formica qu'on a achetées directement là-bas. Un homme qui est dans sa mini boutique de 20 mètres carrés qui vendait des tables dans la rue, on lui a acheté ces tables-là. Parce qu'en fait, à Hong Kong, tout se passe dans la rue, en fait, et chacun prend ses tables en formica et mange directement dans la rue avec ses tables en formica. Et du coup, moi, je trouve ça génial. Gros Bao, j'imaginais le lieu comme un lieu entre l'intérieur et l'extérieur, mm-hmm. tu vois, avec cette terrasse qui donne directement sur le canal Saint-Martin. Ouais. Ça rappelle vraiment, tu vois, vraiment ces lieux en Asie où tu manges directement le long du canal avec ces tables en formica où tu manges dans la rue. Enfin tu vois, c'est vraiment inspiré de l'expérience de la manière de manger là-bas, et du coup c'était important pour moi, tu vois, qu'on ait aussi des objets du mobilier qui représentent en fait cette culture de comment on mange là-bas. Et donc ça s'est fait là-bas, et donc clairement il a été construit à Hong Kong, ce restaurant-là. Okay.
Les esquisses architecturales. Ouais,
okay. Exactement. Donc ça c'est trop bien. Ensuite, Bleu Bao, il a été énormément inspiré de la Chine, toujours par des maisons bourgeoises chinoises et par la porcelaine chinoise. Il y a une ville en Chine que j'adore, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, c'est Qintetsen, mais c'est la ville de la céramique là-bas. Et donc elle m'inspire énormément, cette ville, et du coup c'est de là qu'est née cette inspiration sur la porcelaine. Okay. Et ce bleu le bleu de la porcelaine de Chine qui fait l'identité de Bleu Bao. Et ensuite, j'ai mélangé ça à un voyage à New York.
Okay. Ouais, je ne voyais pas arriver.
Ouais, exactement. Alors, ce que j'adore, en fait, à New York. Moi, ce qui m'inspire dans les villes, en fait, c'est plutôt l'énergie qu'il y a. L'énergie qu'il y a dans les restaurants, la manière dont les gens vivent dans les lieux. C'est ça, en fait, que je capte, ensuite que j'essaie de retransmettre. Et à New York, ce que j'adore, c'est ces lieux qui sont complètement vibrants, lumière très tamisée, des lieux festifs, très festifs, la musique à fond. On ne s'entend pas parler, mais par contre, la musique à fond, tu es dehors, tu entends la musique du restaurant au carrefour de la rue d'après. C'est génial, il y a une énergie de malade. Et en fait, Bleu Bao, c'est ça. C'est la poésie mélangée à de la festivité.
Ouais, ça, c'est très bien résumé. Je trouve vraiment l'atmosphère qu'on a quand on est là-bas. C'est très feutré. En même temps, c'est un peu un lieu pour un date, en même temps avec un groupe d'amis pour s'ambiancer pour la suite de la soirée.
C'est exactement ça, avec des cocktails. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment ce mélange-là. Et après, Bao Express, c'est un mélange de Hong Kong, parce que Bao Express, c'est les diners inspirés de Hong Kong, avec ces couleurs très pastelles que tu retrouves dans les immeubles en fait de Hong Kong. Tous les immeubles, les ponts sont de couleurs, tu as jaune pastel, vert pastel, bleu pastel, rose pastel, et donc du coup le choix du vert céladon, le vert pastel, ça vient de ça. À Berlin, tu as le côté très underground, très usine. Tu crées des lieux dans des garages, parce qu'en fait Bao Express, c'est une ancienne usine de boutons avec une porte de garage, et du coup c'est un mélange de Berlin et de Hong Kong. C'est comme ça qu'on a créé le lieu, et c'est pour ça que The Underpool, qui est le bar underground sous Bao Express, est complètement brut. On a laissé, tu as les murs bruts de l'ancienne usine de boutons, qui est très très, du coup un aspect très rough, très berlinois, et qui rappelle aussi les lieux, tu vois, les lieux cachés des immeubles de Hong Kong un peu clandestins où les gens se réunissaient pour jouer aux cartes, pour jouer au mahjong, les trucs un peu mafieux. Et c'est exactement ça, Bao Express, tu as l'ambiance que tu as, c'est vraiment ça, c'est un truc underground sous un restaurant. Et du coup on a voulu en faire un underground cocktail bar, et très inspiré du coup du côté très rough de Berlin. Et Et en fait, c'est comme ça à chaque fois que se créent les lieux. C'est à travers, tu vois, les villes que je visite, les énergies que j'arrive à capter, en fait, de chacune des villes. Et en fait, à chaque fois, je fais des lieux qui mélangent deux éléments. J'arrive jamais à faire qu'un truc en même temps. Il faut qu'il y ait plusieurs villes. Ouais. Ça amène un peu, je trouve, de...
Des cultures, mais après dans l'assiette ça reste quand même
très c'est complètement chinois dans l'assiette, complètement, mais dans les atmosphères, tu vois, c'est hybride. Mais après je pense que si qu'on est des gens, enfin tu vois, tout le monde a voyagé partout, bien sûr on a un corps de culture qui est très fort et qu'on aime, mais on adore aussi ce qui se passe ailleurs, et c'est ce qui nous fait en fait, c'est ce qui nous ouvre à des consciences, c'est ce qui nous ouvre notre culture, notre manière de penser, et en fait c'est ce que j'ai envie de créer dans ces lieux-là.
Et c'est hyper réussi.
Ouais, merci beaucoup.
On va maintenant parler un peu plus d'art. Tu l'as déjà pas mal mentionné avec ce vers Céladon, on va revenir là-dessus. Et quand on s'est rencontrés la première fois, tu as mentionné justement que tu te nommais directrice artistique. Tu l'as aussi un peu dit précédemment pendant le podcast, ou plutôt creative director, tu préfères en anglais. Est-ce que du coup, peut-être tu peux approfondir sur ça et m'expliquer aussi la différence entre le rôle de Billy et le tien. Tu parlais déjà de vision. Voilà, quelles sont les différentes casquettes que vous avez, et puis maintenant que la boîte aussi grossit. Voilà, quel est ton rôle dans tout ça?
Alors, en effet, on est très complémentaires avec Billy. Et du coup, dès le début, les rôles se sont bien définis. Moi, j'ai toujours eu, tu vois, j'ai beaucoup de goût, du flair. Et c'est pour ça que j'appelle plutôt mon rôle, enfin, je le qualifie comme de direction artistique, parce qu'en fait, je sens des choses.
Oui, c'est pas anodin, parce que tu es cofondatrice avec Billy, et tu pourrais t'appeler comme plein de startups, CEO, président, CEO, j'en sais pas. Il y a des noms un peu plus basiques, quoi. C'est singulier de s'appeler directrice artistique, parce que t'es pas que ça, mais c'est ta grande casquette, quoi.
Ouais, complètement. Bah, en vrai, tu vois, dans les documents papier, je suis présidente.
Oui, donc, officiellement.
Tu vois, c'est officiellement. Mais c'est vrai que je donne une vision, clairement au groupe, à la marque, au restaurant. C'est cette vision-là que je porte, et je sais où j'ai envie de l'emmener. Et après, c'est vrai qu'au quotidien, voilà, je pense que ce que je fais, c'est que je sens les choses. Voilà, je sais repérer les talents, je sais repérer ce qui est beau, je sais repérer ce qui est bon. Et j'arrive à faire, j'orchestre tout ça en fait.
D'accord, t'as une bonne intuition.
J'ai une bonne intuition, mais sur un côté à la fois esthétique et gustatif. Exactement. Et du coup, je pense que mon rôle en fait, c'est de créer du beau et du bon.
On adore. Ça devrait être la devise du podcast, du beau et du bon. Bien manger, bien boire et voir des belles choses.
Exactement, c'est ça. Et du coup, tu as ce rôle-là. Et bah, pour moi, c'est pas forcément qu'un rôle de gestionnaire.
Bien sûr.
Ça va enfin, c'est différent. Et c'est pour ça que du coup, le rôle, tu vois, de directeur artistique, je trouve que c'est à peu près, c'est ça. C'est comment tu orchestres ça. Et moi, j'ai vraiment un rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire que j'orchestre. Tout ce qui se fait dans un restaurant, c'est une orchestration, c'est une danse, c'est un ballet, c'est visuel, c'est scénographique, c'est sensoriel, et moi j'organise en fait tout ça.
Trop bien. Et du coup, cette vision, parce que j'imagine qu'entre ce que tu imagines dans ta tête ou ce que tu peux croquer sur ton carnet, et ensuite le transmettre à tes équipes pour qu'elles le mettent en œuvre, c'est, j'imagine, pas si simple. Comment est-ce que tu fonctionnes, justement? Comment tu les mets dans ta vision? Est-ce que vous faites des projets inspirationnels pour que tu les amènes à aller dans ta direction? Ou est-ce que vraiment c'est des consignes hyper opérationnelles, très claires? Comment ça fonctionne?
Alors ça, je pense que c'est... en tout cas, pour moi, c'est la chose la plus difficile. C'est de réussir à traduire une vision qui est... visuel, sensoriel, émotionnel, à 360, avec des mots. Alors ça, c'est vraiment le plus difficile, parce que quand on parle de sens, en fait, on va parler de, voilà, d'odeur, de son, de goût. C'est des choses, en fait, il faut réussir à mettre des mots sur tout ça. J'avoue que ça, c'est mon travail du quotidien, c'est de réussir à formuler, à verbaliser voilà, tout cet univers, en fait, visuel et sensoriel qu'il y a en moi. Et c'est vraiment mon travail du quotidien. Et du coup, j'essaye comme je le peux de le décrire en fait par des mots et par des dessins. À mes équipes.
Dire, les dessins, ça peut être une bonne chose.
Exactement. Donc du coup, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est je décris par des mots et des dessins. Donc je dessine et j'essaie de qualifier au maximum ce que je veux avec des adjectifs. Et donc tu vois, pour des goûts, enfin pour des plats par exemple, je vais leur dire ok, là il faut qu'on ait une il faut que ce soit du croquant et puis ensuite il faut qu'il y ait du moelleux, ensuite il faut que ça soit addictif, du coup il faut qu'on retienne le goût dans la gorge, au nez il faut qu'on sente ça, il faut qu'on rajoute un peu de sucré, un peu d'acidité, enfin de l'amertume, enfin en gros
tu vas essayer de détailler au maximum
exactement pour chacune des choses. Et après, dans l'architecture, ça va être essayer aussi de décrire, ok, cette couleur-là, pourquoi ça ne va pas ? En fait, il faut qu'une couleur qui soit beaucoup plus douce, qui nous emmène. Tout ça, en fait, il faut réussir à le dire en détail. Et voilà, ça sera un travail du quotidien d'essayer de spécifier au maximum ce qui se passe en fait en sensation.
Et quand on s'est rencontrés aussi, et ce que je lisais avant pour préparer cette interview, c'est que tu considères vraiment le resto comme un univers complet. Mm-hmm. Ce que tu manges, le dressage de la table, la déco, la façade, tout doit être exceptionnel. Ça, c'est quelque chose que je crois que tu as dit plusieurs fois. Et donc, ça passe par tout ce que tu décris là, de vraiment détailler au maximum ce qu'on a envie de ressentir quand on mange en bao ou qu'est-ce qu'on a envie de ressentir quand on entre dans un lieu vers Céladon. Pour une de ces raisons, il y a le choix des architectes qui est hyper important. Toi, tu as fait appel au studio Murmure pour Petit Bao et Gros Bao.
Mm-hmm, yes.
Puis l'atelier AMO pour Bleu Bao et Bao Express.
Ouais, complètement.
Comment est-ce que tu les as connus et pourquoi est-ce que tu as sélectionné ces deux studios d'archi ?
Alors, du coup, ça, c'est toujours dans ma démarche, du coup... créatif, c'est-à-dire qu'au chaque lieu en fait, avant qu'il naît, je sais déjà quelle pâte j'ai envie de lui donner. Et du coup, en fonction de la pâte et l'impulsion que j'ai envie de donner, je vais choisir en fait les bonnes personnes avec qui travailler. Et du coup, pour Petit Bao, Gros Bao, j'avais vraiment envie de donner ce côté justement entre Paris et Shanghai. Et Murmure, tu vois, à l'époque, ce que j'adorais, c'était vraiment leur travail sur les matières et ils arrivent à maintenir en fait l'âme d'un lieu. Le côté très parisien du coup d'un lieu avec, tu vois, c'est les murs en béton ou... Ou des murs en briques, ouais, voilà, ils restent vraiment fidèles au lieu, ils cassent tout, ils curent, et puis ensuite, en fonction de ce qu'ils voient, ils vont transformer, et j'ai beaucoup aimé cette démarche-là, et du coup, je voulais, moi, c'était important de m'inscrire dans Paris, et de pas créer un lieu qui soit complètement, je veux pas ramener qu'un univers chinois, tu vois, et le mettre à Paris, c'est pas ça qui m'intéresse.
Tu veux t'adapter, ouais.
C'est pas une question d'adaptation, c'est plus une question de comment on crée une harmonie, tu vois, entre tout ça, et que ça paraisse vraiment juste... Du coup, Murmure, je les ai adorés pour ça. Je voulais vraiment quand même avoir cette patte parisienne à l'univers shanghaïen ou chinois que j'allais amener. Et après, bien sûr, ils avaient aussi un travail sur les couleurs qui était hyper intéressant. Et moi, clairement, j'avais eu très, très, très vite, j'ai eu envie en fait, d'avoir une couleur forte, un marqueur fort dans chacun des restaurants, parce que je trouve que la couleur t'emmène vers quelque part, tout de suite, en un coup d'œil, en fait, t'es projeté quelque part, et je trouve ça méga, méga fort. Et Murmure travaillait déjà la couleur. Ouais. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on s'est aligné et qu'on a créé Petit Bao et Gros Bao ensemble. Et
après, donc, Petit Bao, qui est pour les couleurs, en tout cas,
qui est vert.
Vert, voilà, vert canard, vert foncé.
Vert, ouais,
comment on le qualifie, ce vert
mais... Alors, c'est vert forêt.
Vert forêt.
Ouais. Vert forêt. Mais c'est un vert de Chine, en fait, qu'on retrouve énormément dans les briques à Shanghai. Ouais.
Et après, Gros Bao, qui est complètement rouge, 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 rouge.
Complètement.
Du coup, très reconnaissable. Petit Bao plus intimiste dans la rue Saint-Denis, ouais. Si on ne sait pas que c'est là, on va peut-être moins le voir, alors que Gros Bao, c'est vraiment la devanture qu'on ne peut pas louper si on passe sur le canal Saint-Martin.
C'est ça.
On voit bien ces lampes de l'extérieur.
C'est ça. Et après, tu as Bleu Bao et Bao Express. C'est des projets en fait, qu'on a signés à peu près en même temps et du coup, on a voulu travailler avec le même architecte. Moi, j'avais envie pour Bleu Bao, justement, dans le côté casual, fine dining, avoir un restaurant qui soit beaucoup plus cosy, intimiste, poétique, avec beaucoup plus de décoration d'intérieur. J'ai rencontré Atelier Rameau, qui avait fait en fait Tala avait notamment travaillé tu vois pour The Hoxton, l'hôtel, pour le Soho House de Hong Kong. Donc on est beaucoup sur des restaurants qui sont beaucoup plus voilà cosy avec beaucoup de décorations d'intérieur très confortables.
C'est pour cette raison du coup que tu voulais aussi toi changer d'architecte.
Oui,
parce que c'est aussi une complexité supplémentaire de recommencer le brief de, que vous connaissiez. Là tu connaissais déjà le duo Murmure.
Oui, complètement, mais après je savais, tu vois, comme je voulais donner justement une patte beaucoup plus déco d'intérieur plus feutrée avec des matières plus nobles mais aussi chaudes, je savais que c'était Murmure au moins cette patte en fait.
Oui, il fallait que tu sources la personne qui était pour ça.
Exactement. Et donc c'est comme ça que j'ai fait appel à Atelier Rameau. On s'est tout de suite compris sur le projet. C'était incroyable. Et en fait, ça allait très vite. Et moi, ce que j'adore en fait, c'est quand dans les premières discussions, on crée déjà le projet. Et que en fait, on a un ping-pong de création qui se fait très vite. C'est comme ça que je sais en fait que c'est les bonnes personnes avec qui on doit travailler. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Atelier Rameau. Tu en as construit Bleu Bao très très vite. Tala, qui a une très très forte dimension aussi artistique, a tout de suite compris le projet. Virginie.
Oui, l'atelier Rameau, c'est quatre femmes, c'est ça hein.
Alors, c'est un collectif de quatre femmes,
exactement. Qui sont, elles, par ailleurs, aussi architectes indépendantes.
Exactement.
Qui se réunissent sur...
Complètement. C'est ça, mais bon, très très fort duo. Nous, on a travaillé avec Tala et Virginie, très fort duo. Et en plus, on avait envie de... Beaucoup, comme on allait sur des restaurants plus grands, Virginie a l'habitude de travailler sur avec les hôtels cost. Donc, on avait aussi besoin de plus de spécialisation restaurant forte. Donc voilà, c'était parfait en fait pour Bleu Bao et Bao Express.
Génial. Et alors donc chez Bao Express, c'est pas uniquement un restaurant, et donc ça c'est un peu la nouveauté de la Bao Family par rapport aux adresses précédentes, c'est qu'on va retrouver le restaurant Bao Express dans l'ancienne usine de boutons, on parle de 500 mètres carrés. On a à côté, sur la gauche, Bao Bakery, donc une boulangerie avec des bonnes spécialités de Hong Kong, un peu plus dans les tons orange. Puis là on peut voir aussi tes équipes qui confectionnent... de manière hyper scénographique, hyper cinématographique, tous ces bons mets. Et au sous-sol, comme tu le mentionnais tout à l'heure, The Underpool, donc un bar à cocktail avec une superbe œuvre d'art. Est-ce que tu peux nous en parler de cette œuvre d'art? Qui est l'artiste? Comment ça s'est passé?
Oui, alors... Alors, l'artiste à The Underpool, c'est Supakich, qui travaille énormément l'eau, les vagues, l'océan. Il habite à Biarritz et vraiment, il est inspiré par la mer. Et donc, il est vraiment connu pour ses œuvres en résine qui ondulent et qui font des vagues, qui sont très, très belles. Et il travaille, en fait, cet effet-là dans toutes les matières. Il adore explorer les matières. Et moi, j'adore son travail. Nous, dans chacun des restos Bao, on a... depuis Gros Bao, on a un artiste, en fait, qui explore. Pose une œuvre et qui fait partie intégrante en fait du restaurant. Gros Bao, voilà, on a fait faire le papier peint. On a deux papiers peints qui ont été dessinés sur mesure par Sarah Martinon, donc notamment le papier peint poisson qu'on a dans les toilettes. À Bleu Bao, on a une œuvre volante de Tiffany Bouel, très poétique. Et du coup, à Bao Express The Underpool, on a l'œuvre de Supakich. Pour moi, comme on a voulu démocratiser la cuisine chinoise, je veux aussi démocratiser l'art et le rendre accessible en fait à tout public. C'est vrai que l'art, c'est aussi quelque chose qu'on a l'impression qu'il est destiné que à un certain type de population, soit dans les grands musées ou dans des galeries d'art, mais qui sont un peu... très peu de personnes vont dans des galeries d'art parce que ça peut paraître intimidant. Moi, j'aime l'idée de pouvoir faire de l'art accessible à tous. Et dans les restaurants, on a vraiment la chance d'accueillir un public tous les jours et donc ils peuvent voir en fait ces œuvres tous les jours. Et donc là, avec Supakich, on a vraiment voulu intégrer l'œuvre dans l'architecture du restaurant. Donc voilà, c'est pas un tableau qui est posé sur un mur. Ça m'intéresse pas
trop.
Est-ce
que tu peux nous expliquer ou est-ce qu'il vaut mieux le voir en vrai
Alors là, en effet, c'est une piscine qu'on a fait intégrer directement au plafond du bar. Et c'est pour ça qu'on a nommé le bar The Underpool. Donc c'est une piscine géante qui est ondulée avec une tôle en inox. On a vraiment... il a peint en fait le rebord de la piscine et il a mis les mains plus un plongeoir. Donc... et le bar, du coup, on a vraiment l'impression d'être sous la piscine. Ouais. Et quand on prend une photo en inversé, t'as l'impression que tu sautes dans la piscine.
Ouais, c'est hyper impressionnant, c'est très très bien fait. Et il faut aller voir vraiment physiquement le lieu parce que c'est vraiment hyper chouette. Enfin, c'est magnifique. En tout cas, Squaky, tu fais des œuvres déjà magnifiques. Alors là, je trouve que ça met en exergue le lieu, le côté intime, en même temps brut, et ça met en valeur énormément l'œuvre.
Exactement. Complètement. Et du coup, c'est l'œuvre principale du bar. Et après, nous, on a réussi à penser en fait tout le concept du bar autour de cette œuvre. Du coup, tu vois, chaque cocktail en fait est brut, minimal, avec une couleur très forte, un peu comme les coraux de la mer. Les tables, tu vois, sont bleu mer, avec un effet un peu aussi bleu de la mer. Et en fait, le soir, c'est hyper beau, la lumière est tamisée, t'as un peu les cocktails du coup, qui se reflètent dans l'œuvre de la piscine, et t'as vraiment un effet qui est magnifique. Et donc, tu vois, tout ça fait que t'es un peu enivré dans cette espèce de... T'as l'impression d'être sous l'eau, et à la fois, tu bois un cocktail super bon, et dans un lieu hyper underground et brut, pour justement laisser la place, finalement, à l'œuvre de s'exprimer.
Génial. Et justement, sur ce concept de piscine au plafond, est-ce que c'est toi qui as eu cette vision? Est-ce que c'est une discussion avec Supa Kitsch qui est arrivée à ça? Quelle a été la genèse de cette installation?
Alors, c'est vrai que je savais, tu vois, moi, mes visions, elles viennent souvent par bout. Donc, je me dis, OK, dans ce bar underground, je sais qu'il faut Supa Kitsch.
Ah, okay. Donc, je voulais absolument
Supa Kitsch, exactement. Comme à Bleu Bao, je savais que je voulais Tiffany Buell.
Okay.
Ensuite, donc, je commençais à contacter Supa Kitsch.
Tu le connaissais pas.
Que je connaissais pas. Et donc, je commence à lui parler du projet, je commence à lui expliquer Bao, je commence à lui expliquer notre démarche. Lui, il adhère au projet, il est à fond. Et donc, trop content, on se rencontre, on commence à parler du projet. Et donc, je savais que son œuvre, je la voulais en bas.
OK.
Et donc je lui explique, je pense que je te vois en bas, je lui explique pourquoi. Et donc il y avait plusieurs zones en fait, comme le lieu était vide, il pouvait mettre son œuvre partout, il pouvait la mettre au mur, dans le couloir, au sol, au plafond, enfin. Et d'ailleurs au début, je crois qu'on était d'abord partis sur les murs, et après au fil de la discussion, je sentais qu'au mur en fait c'était pas vraiment ça, et je sais même plus si c'est lui ou c'est moi, mais en tout cas dans la discussion, on en est venu, mais en fait il faut la faire au plafond, et en fait il faut qu'on fasse une piscine au plafond.
Ah ouais,
et en fait c'est venu dans la conversation, je t'avoue que là je sais plus si c'est venu de lui ou de moi.
Oui, mais en tout cas parce que c'est quelque chose d'inhabituel pour les personnes qui connaissent pas Supa Kitsch, c'est pas dans ses habitudes de faire des choses au plafond, lui
exactement.
il fait en effet des je sais pas comment les nommer, mais des tableaux effet haut par exemple.
Oui.
Il fait parmi plein souvent, d'autres choses, mais c'est souvent au mur.
C'est souvent au mur, exactement. Et en fait, dans notre discussion, on a laissé libre cours à notre imagination. Et on a, c'est ça que j'adore, en fait. C'est quand t'as des créatifs ensemble, on repousse un peu les frontières et les limites. Et on se dit, OK, on va faire une piscine au plafond, en fait.
Un projet inédit pour lui et pour toi.
Exactement. Et donc, voilà, c'est de cette rencontre qu'est né ça. Et après, nous, on a constitué tout l'univers autour de ça.
Génial. Bien. Eh bien, écoute, maintenant qu'on a bien parlé de l'art chez Bao, et je trouve que c'est vraiment une super idée en tout cas de mettre de l'art dans les restaurants, moi c'est vraiment les deux thématiques qui m'animent, tu vois, la food et l'art, et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui avec ce podcast. Je crois savoir aussi que toi, Céline, à titre personnel, la culture et l'art, et de toute façon c'est pas étonnant puisque tu l'amènes dans ton business, c'est quelque chose de très important pour toi, et il me semble que tu... fait une demi-journée créative par semaine. Donc j'imagine que tes semaines sont déjà bien chargées en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous parler de cette demi-journée créative? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et comment t'es arrivée à mettre en place ce rituel?
Alors, en effet, en fait, la demi-journée, c'était, je crois que c'était il y a un an. Et en fait, depuis, c'est une journée.
C'est une journée. Ah, t'es en semaine de 4 jours. Parfait.
Ouais, alors ça s'est transformé en une journée. C'est tous les vendredis. Du coup, en effet, on a des semaines qui sont hyper rythmées, en réunion, en projet, en rencontre, on ne s'arrête jamais. Et du coup, ces moments, on est en constante production. On a très peu d'espace dans sa tête pour créer et pour imaginer et pour s'inspirer. Et du coup, j'ai très vite compris que moi, en tout cas, c'était très, très important d'avoir des moments un peu de vide et de silence et des moments d'inspiration, parce que c'est de là que me viennent, en fait, ces idées folles.
Et
ces visions. Ouais. Exactement. Et que si je suis tout le temps dans un rythme effréné, en fait, je suis coupée, en fait, de mes visions et de cette imagination. Et donc, je ne peux pas créer. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, il faut que tu te consacres une journée, en fait, où tu n'as pas de réunion, pas de rendez-vous, à part des rencontres, mais en dehors de Bao, enfin des rencontres autres en fait qui m'inspirent autre chose, où je ne suis pas au bureau, je ne suis pas au resto, où vraiment c'est un moment pour moi et qui me permettent voilà, de me recentrer, de plonger à l'intérieur de moi, voilà. Et en fait de ça, je ne sais pas ce qui vient, mais il vient toujours des choses. Et donc ces journées, je les attaque sans objectif précis.
D'accord, tu te mets pas une sorte de planning.
Non. Mais en fait, justement, l'idée, c'est de rien planifier. À part si vraiment, tu vois, j'ai envie de faire une expo.
Bien sûr.
Que j'ai envie de faire et que, bien sûr, cette expo. Enfin, voilà, je planifie une expo dans l'après-midi ou un rendez-vous. Mais par contre, je ne blinde pas ma journée. L'idée, c'est pas d'avoir expo, café, rencontre. Parce que si ça devient ça, en fait, ça devient encore un truc effréné.
Bien sûr.
L'idée, c'est vraiment de laisser de l'espace. Et donc, par contre, si j'ai une rencontre que j'ai envie de faire, je peux la faire. Si j'ai une expo que j'ai envie de faire, je peux la faire. Mais après, autour de ça, je ne planifie rien. En fait, je me lève le matin et je me demande, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Et en fait, après, je me laisse porter.
Et souvent, qu'est-ce qui se passe du coup dans ces journées ? Alors, j'imagine que c'est très différent d'un vendredi sur l'autre.
Ah ouais,
mais,
c'est hyper différent.
Qu'est-ce que tu vas être amené à faire en dehors des rendez-vous que tu as planifiés ?
Alors, souvent, quand j'ai besoin de dormir, je dors. Vraiment, je m'autorise. Tu vois, quand vraiment tu as une semaine de malade, si je sens que j'ai besoin d'avoir 4 heures de sommeil en plus, enfin 2 heures, 3 heures, 4 heures de sommeil en plus, ben là, je les prends. Si j'ai pas besoin de dormir, ben, je me lève. Et ensuite, je peux avoir envie d'aller me poser dans un coffee shop et d'écrire. Et donc là, je peux me poser une demi-journée dans un coffee shop et écrire, et j'adore. Je peux me poser et aussi lire. Et je peux passer une journée à lire. Je peux me lever, avoir envie de marcher dans Paris. Et donc là, je vais me balader. Et dans n'importe quel type de quartier. Des fois, j'ai envie d'aller voir des quartiers où je ne suis pas allée depuis longtemps. Vraiment, j'ai des envies d'aller à Montmartre. Donc, je vais à Montmartre, des envies d'aller de l'autre côté de la Seine. Donc, je vais de l'autre côté de la Seine. Et j'adore aussi voir les évolutions des quartiers parisiens. Donc, ça me permet aussi de voir comment Paris évolue. Et ensuite, dans ces balades, en fait, je vois des librairies, je vois des galeries d'art, je vois des cafés, je vois des fleuristes, je vois des nouveaux artisans. Et donc, en fait, dans ces balades-là, je veux aussi voir des choses.
Ouais.
Et ça, c'est génial. Et donc, je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais en tout cas, j'observe, je regarde et j'explore et je me fais plaisir. Et c'est trop bien. Et après, des fois, j'ai rien envie de faire. Et tu vois, ça m'est arrivé j'étais juste chez moi. Genre, chez moi, à lire et écrire, et c'est tout. Ou à aller au marché, ou à cuisiner. Bref. En fait, les envies sont diverses et variées. L'idée, je pense, c'est juste d'écouter l'élan intérieur et ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et souvent... Bah, dans les mêmes moments de calme et de repos, en fait, j'ai 15 000 idées. Et le lundi, j'arrive et je pète la forme.
Ouais.
Et vraiment, par contre, c'est assez ouf parce que comme vendredi, j'ai le temps de bien me poser. Après, j'ai un week-end, samedi, dimanche, tu vois. Beaucoup plus serein. Où je suis encore dans la continuité de mon vendredi. Et souvent, dimanche, j'ai déjà envie de travailler. Enfin, vraiment, ce qui se passe, c'est que comme mon vendredi est calme, dimanche, j'ai déjà... tu vois, toutes mes idées, elles prennent déjà forme et j'ai déjà envie de bosser. Le lundi matin, c'est l'explosion.
Tu sens une vraie différence depuis que tu as mis en place, là, depuis un an, du coup. Donc, Bao existe depuis plus d'un an. Est-ce que tu as senti un avant-après, justement, cette mise en place de cette journée ou cette demi-journée
avant ?
Ouais,
carrément. Moi, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie, en tout cas, le lundi. Ouais, je sens vraiment que j'ai beaucoup plus d'énergie. Je sens que, tu vois, dans ma tête aussi, tout se met en place plus vite. Je sens aussi que j'ai plus de place, tu vois, à prendre du recul, à faire de la stratégie. Quand tu es, tu vois, moins la tête dans le guidon, ouais, ça fait toujours du bien pour la strat. Donc, c'est pour moi, c'est vraiment salvateur.
Et est-ce que c'est quelque chose que, à terme, tu aimerais appliquer aussi à l'ensemble de tes équipes ?
Oh, vraiment, moi, j'aimerais bien le faire. Bah, déjà, moi, toute mon équipe créa, tout mon lead Creative Studio est à sa journée créative aussi le vendredi.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire créative, c'est-à-dire que ma lead créa, tu vois, c'est sa journée créative. Ma DA et celle qui s'occupe de toute la DA, la com, elle, ça va être sa journée où, pareil, elle n'a pas de rendez-vous, pas de réunion. Elle va faire que la production de contenu. Donc, elle adore faire de la photo et de la vidéo, donc c'est le moment qu'elle a pour elle. Elle va du coup explorer, faire du contenu, mais du coup personne l'embête à ce moment-là, donc elle est vraiment concentrée, elle peut explorer, elle peut aller au bout de sa démarche. Donc en fait, déjà dans le studio Créa Bao, c'est ce qui est mis en place. On ne l'a pas en opérationnel, c'est très dur parce que nos restaurants sont ouverts 7 jours sur 7, donc là ça demande autre chose. Et je pense que petit à petit ça va venir également pour l'ensemble des fonctions.
Et lors de ces journées créatives, peut-être quand tu fais des expos ou tu te balades, que tu découvres des boutiques, des librairies, est-ce que tu peux peut-être nous partager tes dernières découvertes culturelles ou en tout cas les créatifs qui t'inspirent le plus en ce moment, de qui tu auras envie de nous parler?
Alors récemment là, il y a la Pharmacie des âmes qui est ouverte, une librairie qui est rue Vanneau, à côté du musée Rodin. D'ailleurs, j'avais fait le musée Rodin et ensuite la Pharmacie des âmes. C'est une très belle balade qui a été montée par Ramdam Twani, qui est le DA en fait de Office in Bully, mais qui a aussi, enfin qui est designer, qui a aussi monté son studio. J'adore, il est très créatif et le nom, tu vois, de cette librairie, la Pharmacie des âmes, moi ça me parle complètement.
Très poétique, ouais.
Très poétique, la sélection est très très belle et celui est vraiment très 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 sympa, très inspirant. En tout cas, c'est le lieu que je vous recommande.
Très bien. Et alors, pour finaliser un peu cette interview passionnante, quelle est la suite de Bao? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochains mois, années à venir? Où est-ce qu'on te trouvera dans quelques mois, dans quelques années?
Alors, en effet, on a déjà démarré le début d'année très fort avec cette ouverture de 3 lieux en un. Ouais. Et c'est sûr que, tu vois, dans notre élan, on a toujours envie de créer. Donc, il y a des nouveaux lieux qui vont arriver. Je peux pas en dire plus parce que c'est un secret, mais voilà, il faut pas hésiter à nous suivre. Des choses vont arriver en tout cas à l'automne, donc en termes de timing, vous savez quand ça va sortir. Et après, on a la chance avant l'automne, voilà, de participer à des festivals qui nous tiennent à cœur. Il y a Taste of Paris, dans lequel on sera encore cette année. On est trop contents dans ce festival gastronomique français. Et après, bien sûr, il y a beaucoup de projets qu'on a dans les tuyaux qui vont sortir petit à petit à destination. Voilà, l'idée, c'est toujours de créer encore plus d'expérientiel autour de la marque Bao. Donc, ça va venir petit à petit.
Génial, on a hâte de voir. Donc, on attendra l'automne 2023. Céline, c'était vraiment une interview passionnante. Je suis ravie d'avoir découvert un peu plus l'univers Bao Family, que maintenant, on connaît bien avec ses 4 adresses. Est-ce que tu aurais un mot de la fin finir ce podcast?
Je voulais te remercier pour cette interview. Donc vraiment merci beaucoup de partager aussi toi ta passion pour la food et l'art. C'est très très heureuse qu'il y ait beaucoup d'acteurs, tu vois, qui parlent de ces sujets-là. Et après, j'ai juste envie de dire à tout le monde de continuer à faire vivre la food et l'art tout le temps, en allant dans les lieux, en allant soutenir des artistes, en allant dans les galeries, en allant dans les musées, en soutenant la culture et en soutenant, tu vois, tous ces restaurateurs en fait qui se donnent à fond au quotidien pour vous faire plaisir. Donc continuer à faire vivre tout ce que font les gens, parce que c'est des initiatives qui sont incroyables. Donc merci à tous de vous intéresser à ces sujets et de faire vivre tous nos lieux.
Merci beaucoup Céline, à bientôt.
Ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, inspiré, émerveillé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles en commentaire, mais surtout parlez-en autour de vous, afin qu'ensemble, collectivement, on fasse rayonner ces profils créatifs singuliers. En attendant la prochaine découverte, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements, l'univers de chaque invité et retrouver les bonnes adresses mentionnées plus tôt.